J'ai rappelé au cours des séances précédentes les données principales de l'interprétation du moment présent que je propose. Ce moment présent ne se laisse comprendre, à mon sens, que comme une radicalisation structurelle de la modernité sous l'effet du parachèvement du processus de sortie de la religion dont est issue la dite modernité, sous l'effet, autrement dit, de la dissolution finale de la structuration hétéronome du monde humain social, à l'intérieur de laquelle s'était logé depuis le départ le déploiement de la structuration autonome. Cet aboutissement de la sortie de la religion dans l'espace européen est l'enjeu du tournant clé qui nous a fait basculer dans le moment présent, le tournant du milieu des années 1970, qu'il convient de regarder comme l'ultime tournant théologico-politique de la modernité. Ce que nous avons à déchiffrer à partir de là, pour nous y retrouver dans ce changement de monde qui nous tombe dessus, ce sont deux choses. En premier lieu, le nouveau visage qu'en viennent à prendre les trois éléments ou les trois vecteurs de la structuration autonome, le politique, le droit et l'histoire, dans leur version complètement développée, visage tellement nouveau par rapport à leurs expressions classiques qu'il nous les rend spontanément méconnaissables, que sont le politique, le droit et l'histoire devenus ou en train de devenir depuis 40 ans. Voilà notre première question. Ce que nous avons à déchiffrer en second lieu, c'est la configuration globale que forment ensemble ces trois éléments. C'est cette configuration qui détient la clé dernière de nos problèmes. C'est en elle en particulier qu'il faut chercher la source de ce que nous ressentons, plus ou moins confusément, comme crise de la démocratie. Pour donner corps à ces propositions théoriques et donc nécessairement abstraites, je voudrais repartir d'une phénoménologie de la mutation, d'une description du changement de direction brutal de la marche des sociétés du point de vue de l'expérience vécue des acteurs. Nous allons essayer donc de typifier l'avant et l'après de notre tournant. Comment est-ce que se présentait, à la veille du tournant, au début des années 1970, la physionomie générale des démocraties stabilisées ou en voie de stabilisation de l'Ouest européen? Quelle allure revêtait l'ébauche de régime mixte des modernes qui en était venu à se former à la faveur des réformes fondamentales de l'après-1945. Régime mixte réalisant une conjugaison à peu près équilibrée entre les trois éléments qui constituent l'inédit du monde moderne par rapport à l'ensemble des sociétés anciennes. Le politique comme tel, le droit comme tel, l'histoire comme tel. Cet inédit s'insère dans une configuration que nous pouvons tenir rétrospectivement pour la dernière configuration classique de l'histoire européenne, en ce qu'elle relève en même temps de l'ancienne unité hétérone. L'expression directe, sur le plan politique, de cet équilibre structurel sous-jacent était l'équilibre, tant bien que mal atteint, entre la dimension libérale et la dimension démocratique de nos régimes. Dimension démocratique qui s'atteste dans la puissance collective concentrée dans l'État, la dimension libérale s'exprimant dans la liberté laissée à la société civile de s'organiser, notamment sur le plan économique, à l'intérieur du cadre organisé par l'État régulateur et par ailleurs dans les garanties matérielles de l'indépendance individuelle apportées par les droits sociaux. Si l'on procède par un contraste grossier en première approche, ce qui est au premier plan, ce qui occupe les esprits dans cet avant du tournant, c'est le politique et l'histoire. La notion de masse et d'organisation faisant le trait d'union entre les deux. Ce sont les masses qui font l'histoire, et pour qu'elles fassent l'histoire, il faut les organiser. Le droit étant présent, mais à la marge. Après le tournant, le politique et l'histoire ont disparu de la scène, en même temps que les masses et l'organisation. On ne voit plus que le droit, en lien avec le passage au premier plan de l'individu et de l'économie dérégulée. Autrement dit, la dimension libérale est passée au premier plan, aux dépens de la dimension démocratique. Voilà, en première approximation, le changement de paysage global qui n'a mis que quelques années à s'installer. Poussons un peu plus loin la description de cette démocratie libérale d'avant le tournant. Elle est construite autour d'un double refus. Il faut bien s'en souvenir. Refus de l'impuissance libérale classique, qui a amené par réaction les totalitarismes, et refus, justement, simultanément, de la toute-puissance totalitaire, qui n'apporte qu'une solution illusoire, en plus à cette impuissance libérale, en plus d'être humainement destructrice. C'est ce double ressort qui motive et guide les réformes de la démocratie. Structurellement parlant, maintenant, cette démocratie libérale représente l'ultime compromis possible entre autonomie et hétéronomie. Compromis caché, mais opératoire. Caché parce qu'on ne voit plus l'hétéronomie. Elle a officiellement disparu. Elle est enfoui au profit des rouages autonomes, seuls visibles, mais en réalité, c'est elle qui dicte souterrainement la forme de l'ensemble. C'est elle qui façonne et limite les expressions de l'autonomie structurelle, comme nous allons voir par contraste. Le classicisme de cette configuration qui fait que l'on a le sentiment, traduit les expressions intellectuelles de l'époque, d'être dans la continuité non seulement du parcours moderne, mais de l'ensemble du passé humain, tient à l'unité hétéronome toujours régnante secrètement. La clé de voûte de cette unité, c'est le primat du politique, dans sa figure la plus classique, dictée par les circonstances. Nous sommes en guerre. Et quelle guerre, même si elle reste froide, puisqu'elle met aux prises, à l'échelle mondiale, deux blocs idéologiques pourvus chacun avec l'arme nucléaire des moyens d'anéantissement de la planète. La guerre est la situation qui active naturellement la primauté du politique dans sa version la plus traditionnelle, indépendamment même de sa justification religieuse. Cette figure traditionnelle, c'est l'unification de la collectivité par un commandement d'en haut au nom de plus haut que lui. Ce plus haut, c'est normalement, dans les circonstances ordinaires, l'ordre émané des dieux, dont le commandement politique n'est que la réfraction parmi les hommes. Mais en temps de guerre, ce principe supérieur prend l'aspect d'un but immédiat et tout terrestre, la survie de la collectivité. Un but qui justifie la mobilisation de l'ensemble des forces collectives sous un commandement absolu, un commandement de salut public, comme une longue tradition l'a dit, en vue de la préservation de l'existence commune. C'est pourquoi, comme il est bien connu, mais pas pour autant suffisamment compris, les pouvoirs à légitimité fragile sont tentés par la guerre. Toujours est-il que c'est sous le signe de cette primauté stratégique du politique que vont s'opérer les grandes réformes de l'après-1945, à commencer par les réformes sociales, dictées par le souci d'accroître la cohésion des nations. Même chose pour le contrôle politique de l'économie, dicté par la préoccupation d'éviter à tout prix le retour d'une crise comme celle de 1929, avec ses conséquences de déstabilisation et de subversion politique. Mais aussi dicté par le désir d'assurer une relative équité dans le maximum de prospérité par une redistribution permettant d'acheter la paix sociale. Cette conjoncture explique aussi bien le relatif consensus idéologique dans lequel ces réformes s'opèrent. Toutes les familles y trouvent leur compte. Les socialistes ne peuvent évidemment qu'applaudir des transformations qui leur paraissent au moins amorcer le mouvement de socialisation auquel ils aspirent. Les libéraux se résignent en voyant dans ces concessions le prix à payer pour la défense du camp occidental et la préservation des libertés fondamentales. Les conservateurs eux-mêmes s'accommodent de ces évolutions dans la mesure où elles donnent le pas à l'autorité de l'État et au renforcement de la nation sous l'angle de sa cohésion sociale. Et il est vrai que les droits sociaux, si l'on se tourne maintenant vers l'élément du droit, ne se présente pas sous l'aspect irréel des droits formels bourgeois. Il renvoie aux conditions concrètes d'existence des individus, et qui plus est, à l'opposé de l'atomisme et de la déliaison que socialistes et conservateurs se rejoignaient pour dénoncer dans ces droits formels, les droits sociaux représentent autant de liens inscrivant les individus dans leur société. Ils renforcent le lien social au lieu de le dissoudre. Ils individualisent dans la socialisation. Quant à l'élément social historique, enfin, il est dans tous les esprits et au premier plan des préoccupations intellectuelles. Ne serait-ce que pour la bonne raison que la confrontation avec le bloc soviétique est la confrontation avec un ennemi idéologique qui s'appuie sur une doctrine jouissant d'un immense prestige et qui dispose de puissants appuis au sein des sociétés de l'Ouest sous l'aspect des partis communistes. Souvenez-vous, le marxisme est l'horizon indépassable de notre temps. 1960, sous la plume du philosophe mondialement le plus connu de l'époque. La guerre froide se double d'une intense bataille intellectuelle pour ou contre le marxisme-léninisme dont se réclame le mouvement communiste international. Le marxisme, c'est-à-dire la science, se disant science, du développement des sociétés, apparu au moment où, avec la formation du prolétariat sous la domination bourgeoise, émerge la perspective d'une révolution sociale finale, destinée, en dépassant le capitalisme, à accoucher l'histoire de son accomplissement ultime, le communisme. Accomplissement dont les régimes dits communistes se donnaient pour le début de réalisation grâce à la dictature du prolétariat. Cette échéance, cette perspective d'une fin de l'histoire proche, à portée de la main, voire en train de prendre corps, était effectivement l'horizon intellectuellement, idéologiquement dominant en Europe. Différence sur ce point avec les États-Unis, immunisés pour des raisons fondamentales contre cette perspective. Comprendre la société américaine, c'est comprendre les motifs qui l'ont rendue et la rendent toujours étrangère à pareil horizon historique. Mais ce n'est pas chez eux, alors que l'essentiel était réputé se passer, mais sur le champ de bataille européen. La vraisemblance de cette perspective, il faut expliquer pourquoi les esprits tendaient à y adhérer, qu'est-ce qui faisait de l'horizon révolutionnaire l'horizon indépassable, apparemment, de la situation historique? Cette vraisemblance s'enracinait dans l'agencement structurel du politique et de l'orientation historique. L'État fournissant l'instrument capable d'accoucher l'histoire de cet accomplissement, ou du moins de conduire vers lui. C'est là-dessus qu'on discutait et qu'on se divisait, d'ailleurs violemment, mais l'ensemble des positions en présence s'inscrivaient dans la même matrice. Il y avait les révolutionnaires purs et durs, il y avait les réformistes sociaux-démocrates, d'accord avec la perspective ultime de socialisation intégrale, mais en désaccord sur les moyens, c'est-à-dire, pour faire court, sur la dictature du prolétariat. Et puis, il y avait les réformistes tout court. Le parti dominant en pratique dans les sociétés européennes, le parti technocratique réellement gouvernant, récusant aussi bien l'idée du but que l'emploi des moyens, mais s'inscrivant néanmoins dans une version modérée, voire conservatrice, dans la même problématique. Sous ces deux dimensions principales. D'une part, la fonction de l'État est de stimuler et d'orienter le développement des forces productives. D'autre part, l'horizon dans lequel s'insère cette action est celui d'une socialisation toujours plus étendue. Même si on la veut respectueuse des libertés libérales. Le développement des forces productives fournissant les moyens d'un façonnement global de la vie collective. Ce façonnement, dans le langage technocratique, prend l'aspect d'une politique des revenus, d'une politique sociale, d'une politique de bien-être, d'une politique d'aménagement du territoire, etc., etc. L'aspect d'une maîtrise rationnelle de l'ensemble des rouages d'une société de mieux en mieux consciente de son fonctionnement. Grâce, par exemple, pour les non-marxistes, aux sciences sociales, dont cela va être l'âge d'or. Un démocrate chrétien peut parfaitement se retrouver dans cette perspective, et même un conservateur qui va y trouver une version moderne du renforcement de l'ordre social auquel il est attaché. De manière générale, les mots d'ordre de l'époque sont modernisation, rationalisation, organisation, planification. Tout mot d'ordre qui se rattache à ce qui constitue l'articulation centrale de l'expérience collective d'alors, telle qu'elle est structurellement agencée et intellectuellement vécue par les acteurs, à savoir le gouvernement de l'histoire. Le devenir produit par l'ensemble des travaux sociaux possède un sens, une direction, un but identifiable. On sait vers où il va et où il doit aller. Et le politique, l'État, est l'opérateur en chef en charge de mener dans cette direction d'ensemble dont il existe plusieurs versions, modérées et radicales, mais compatibles entre elles. C'est ce but modernisateur, rationalisateur, socialisateur, qui va d'ailleurs prendre peu à peu le pas de l'intérieur sur le but stratégique de l'état de guerre initial, à la faveur des possibilités créées par la détente sur le plan international qui ne met pas fin à la guerre froide, mais qui repousse l'échéance de la confrontation militaire. Cette articulation du politique et de l'histoire est le cœur de la configuration structurelle où nous pouvons reconnaître l'ébauche de notre régime mixte. Sa formule est la suivante, en résumé. Au premier plan, l'élément social historique, sous le jour de son accomplissement ou de son dénouement, l'histoire pensable dans l'horizon de sa fin, de sa forme terminale, cette réalisation de l'histoire a pour instrument le politique. Ce en quoi, au passage, nous sommes en fait aux antipodes de Marx en son temps, pour qui la réalisation de l'histoire ne pouvait passer que par la destruction ou la dissolution du politique. Les retombées immédiates de ce mouvement vers la socialisation par le politique ont l'aspect de droits sociaux. Anticipation de ce que sera la société du droit réalisé, où le droit aura disparu comme tel dans l'effectivité des rapports sociaux. Histoire, politique, droit, les trois éléments ont droit de cité dans une combinaison qui équilibre par ailleurs démocratie et libéralisme. C'est cette formule et cette combinaison que le tournant du milieu des années 1970 a fait exploser et balayer en quelques années. Rarement, tournant aussi décisif aura été aussi rapide. Mais bien entendu, le tournant était en gestation depuis un moment vers l'amont, et bien entendu, ses conséquences ont mis du temps à se déployer en grand vers l'aval. Il n'empêche que dans son principe, il n'a guère fallu que 5 ans à peu près pour qu'il soit joué pour l'essentiel. Mais avant de venir à cette mutation brutale, je voudrais encore insister pour lui donner plus de relief encore sur l'empreinte hétéronome qui conditionnait l'expression de ces trois vecteurs de la structuration autonome. Ils continuaient simultanément de fonctionner en secret comme des vecteurs de l'unité hétéronome. Et c'est ce qui déterminait leur forme effectuante, leur manière de se présenter. Vecteur pour le politique. Vecteur pour le politique de l'imposition d'un principe supérieur dans la définition de l'ordre collectif. Ce principe était devenu un but historique sans plus rien de transcendant, en tout cas explicitement. Il n'empêche qu'il conservait à l'État son aspect traditionnel d'appareil de domination, comme il gardait à la nation son aspect traditionnel d'incorporation, d'appartenance contraignante. L'État-nation restait formellement dans l'orbite du politico-religieux de toujours et de sa formule organisatrice. L'unité par l'altérité, le contenu avait radicalement changé en devenant immanent et autonome, mais la forme demeurait celle d'un levier en charge d'unir pouvoir et société pour unir la société à son fondement et à sa justification ultime, disant ce qu'elle doit impérativement être. C'est là, je crois, la formule qui concentre la manifestation du politique dans sa version hétéronome, le commander l'ensemble par en haut au nom de plus haut. Parallèlement à cette union hétéronome du pouvoir et de la société, le droit restait compris sur fond d'union de l'individuel et du collectif. La pointe la plus avancée du droit autonome, les droits sociaux, fournissant une illustration exemplaire de ce point de vue. Ce sont des droits destinés à conforter l'individualité concrète de chacun, mais en lui reconnaissant une place au sein de la société. Les droits sociaux. C'est déjà fait. Les droits sociaux sont des droits qui solidarisent l'individu avec ses pareils. Ils corrigent en cela l'abstraction atomistique des droits formels, en réalisant l'alliance de l'indépendance et de l'appartenance, ce qui n'a pas peu compté dans l'appui que la grande force politique européenne de l'époque, la démocratie chrétienne, a pu donner à cette cause en y voyant le moyen de retrouver par des moyens modernes un esprit communautaire traditionnel. Même chose, enfin, pour l'histoire, le point le plus difficile à saisir, mais pas le moins important pour comprendre la suite. L'unité hétéronome sur ce terrain a l'aspect de l'unité des temps, l'unité du passé, du présent et de l'avenir. Ce que la tradition hétéronome réalise parfaitement. Le passé, pas n'importe quel passé, le passé fondateur, contient par avance tout présent et tout avenir possible. Ce qui a été est et sera. L'avènement moderne de l'histoire, c'est-à-dire de l'orientation productive ou génératrice vers l'avenir, brise explicitement cette unité. Le présent est différent du passé, puisqu'il est précisément ce temps où l'on peut critiquer l'héritage du passé, voire rompre avec lui, pour travailler à un avenir qui sera lui-même différent du présent. Mais cette différence opératoire des temps, caractéristique de la temporalité historique moderne, va rester longtemps prise dans à l'intérieur de l'unité hétéronome. C'est ce que va traduire la prégnance du schème de la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est-à-dire ce moment privilégié, symétrique en fait du passé fondateur de l'univers de la tradition, où l'unité perdue dans le mouvement du devenir est retrouvée au final dans une totalisation finale du chemin parcouru qui lui donne son sens. Cette fin de l'histoire va elle-même revêtir plusieurs visages successifs au fur et à mesure de l'avancée de l'orientation historique. Son premier visage va être le visage conservateur de la synthèse du passé hétéronome et du présent autonome, ce dont la formule de la monarchie constitutionnelle est le parfait résumé. Monarchie hétéronome, constitutionnalisme autonome. C'est le visage sous lequel Hegel va introduire en grand cette idée de fin de l'histoire. La fin de l'histoire est advenue puisque l'histoire est devenue consciente. Elle est la vérité du présent et la marque spécifique du présent. C'est cette vérité du présent qui lui permet de reprendre le chemin, la totalité du passé dans le savoir absolu de soi. La fin de l'histoire va prendre ensuite le visage libéral du progrès. La fin de l'histoire est en cours de réalisation comme développement conscient des germes déposés à l'origine et progressivement épanouis. Si l'on veut une parfaite expression de ce visage libéral du progrès, c'est chez Spencer qu'on le trouvera. Enfin, la fin de l'histoire va prendre le visage révolutionnaire d'une fin de l'histoire à opérer moyennant le renversement du présent. Renversement du présent qui donnera à la société communiste sa forme pleinement développée, cette forme qui était en germe dans le communisme primitif. L'unité du parcours, dans le schéma de la fin de l'histoire, est donnée et pensée à la fin, au lieu d'être posée et pensée au début, comme dans l'univers de la tradition. Mais ultimement, cette unité des temps demeure le cadre obligé dans lequel penser l'invention de l'histoire au futur. Et quand je dis cadre obligé, il faut prendre l'expression à la lettre. L'obligation est vécue par les acteurs, vécue et pratiquée comme dette envers le passé et comme devoir envers l'avenir. Ce sont ces impératifs qui façonnent et qui guident l'action collective et qui inspirent l'action individuelle. Alors, on ne comprend pas sans ce facteur la formidable énergie militante et l'incroyable esprit de sacrifice qu'ont pu mobiliser les deux premiers siècles de la société de l'histoire. Autre contraste intéressant avec le présent. leur ressort n'était autre au plus profond que cet impératif d'agir en vue de l'unité ultime des temps à obtenir. Seule perspective à même de donner son sens à l'action humaine. C'est cette configuration d'ensemble dont l'unité hétéronome assurait la cohérence qui s'est volatilisée ou dissipée sans bruit dans la deuxième moitié des années 1970 en Europe. Voilà le secret de la mutation qui nous a fait changer de monde. Cette organisation, en effet, pour être passée dans l'implicite, nous gardait en contact et en familiarité avec ce qui avait été l'agencement fondamental des sociétés humaines depuis toujours. Ce qui faisait ultimement leur air de famille. On s'y retrouvait toujours, quelque déconcertante que soit au premier abord leurs formes institutionnelles, leurs règles de vie. C'est à cette aune qu'il faut mesurer la portée de l'événement sous le coup duquel nous nous trouvons. À l'insu générale, sans que personne ne comprennent vraiment ce qui se passait, c'est une des plus grandes ruptures de l'histoire humaine qui s'est produite. Elle nous a fait basculer pour de bon dans un autre monde. Certes, il existait des antécédents sur le plan des principes, mais l'expression effective des éléments qui composent le monde humain s'est renouvelé de part en part, au point d'être méconnaissable. Il est entièrement à réapprendre, comme si nous avions à dessiner une nouvelle carte du monde après un bouleversement géologique qui aurait redessiné les mers et les continents. L'étrange, et même le très étrange, du point de vue du climat collectif, c'est que cet inconnu soit aussi peu ressenti. Nous sommes ailleurs, dans un monde où les problèmes qui travaillaient nos aînés ont disparu. Nous ne savons pas vraiment où nous sommes, mais apparemment, tout le monde s'en fiche. Un illisible qui ne sollicite pas le déchiffrement, voilà, qui demande à être expliqué. La manifestation la plus palpable de cette métamorphose a sans doute été la crise de l'avenir, patente dès la fin des années 1970. Crise qui a entraîné avec elle l'évanouissement de l'histoire comme dimension organisatrice de l'expérience collective. Par crise de l'avenir, entendons précisément la disqualification des figures sous lesquelles l'avenir se donnait à penser dans le cadre de l'orientation pratique vers l'avenir. Ces figures se ramenaient pour l'essentiel aux trois inspirations que nous avons évoqué, la tradition, le progrès, la révolution. Du côté conservateur, l'avenir comme actualisation et réactualisation de la tradition. Programme dont la formule fameuse de Lampedusa dans le Guépard est le résumé parfait. Il faut que tout change pour que rien ne change. C'est ce qui distinguait les conservateurs modernes des réactionnaires traditionnalistes, figés dans l'intangibilité de l'héritage du passé. Dans un monde moderne expressément et consciemment historique, bien sûr qu'il y a du changement, il est nécessaire, mais dans la perspective conservatrice, ce changement doit se proposer pour but de pérenniser et de conforter les articulations essentielles de l'ordre humain. Nous avons en France un conservateur typique en ce sens, en la personne de Le Play. Comment penser un ordre traditionnel construit sur la famille à l'âge industriel ? Étant entendu que le ménage ouvrier n'est pas le ménage paysan des communautés rurales anciennes. Le progrès libéral cultivait de son côté la figure de l'avenir comme développement et déploiement des germes du présent. Mais là aussi, dans le maintien et la préservation des formes acquises à l'âge moderne, les règles de la liberté, tout simplement. Stuart Mill l'a bien dit dans une formule dont la platitude ne doit pas apparente ne doit pas dissimuler la profondeur. Le progrès, c'est la même chose et quelque chose en plus. La révolution sociale, elle, posait la possibilité d'un avenir à base de rupture avec le présent et de renversement complet de l'ordre social existant. Mais cette discontinuité révolutionnaire n'a de sens que comme accomplissement des potentialités ou des promesses du présent. Pour poursuivre avec la veine de ces formules qui ont le don de concentrer des idées qui parlent largement, vous vous souvenez de la formule d'Éluard, un autre monde existe, il est dans celui-ci. Mieux encore, ce renversement du présent est l'outil d'un dénouement réconciliateur de l'histoire humaine entière, devant permettre d'en sceller le sens en l'assumant en sa totalité. Autrement dit, cette analyse sommaire suffit à le faire ressortir. Derrière ces trois figures, il y avait la présupposition d'une unité dernière des temps. C'est cette unité structurante qui donnait leur plausibilité à ces différents visages du futur. C'est cette unité qui s'est volatilisée en retirant leur crédit à ces figures. Elles ont cessé d'être croyables ensemble. Au-delà de l'inertie des vocabulaires et des rhétoriques,
il n'y a plus de vrais conservateurs, pas plus que de vrais révolutionnaires, ni même de vrais progressistes dans la rigueur du terme, dans la rigueur philosophique du terme. Ces idées se sont vidées de sens en même temps avec l'évanouissement de leur support. L'avenir a brutalement cessé d'avoir une figure plausible, assignable. Il est passé dans l'infigurable. On ne peut se le représenter. Cette unité ultime des temps ne se manifestait pas que dans ces figures de l'avenir qui orientaient l'action individuelle et collective. Elle avait une dimension on ne peut plus opératoire. Déterminant les attitudes des acteurs sous l'aspect d'une piété envers les leçons du passé, le passé était dans le présent, comme message, et d'un devoir mobilisateur envers l'avenir. Ce sont aussi bien ces attitudes qui ont perdu leur sens. L'achèvement de la détraditionnalisation nous a définitivement coupés du passé. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il n'existe plus pour nous, mais il existe, comme nous le verrons, sur un tout autre mode. De la même façon, l'infigurabilité de l'avenir, l'effacement d'un chemin continu et maîtrisable conduisant du présent vers l'avenir, a ruiné le principe des démarches qui visaient à gouverner cette invention du futur. Typiquement, la démarche de planification, en laquelle tous les espoirs de rationalisation collective étaient placés et qui s'est liquidée d'elle-même, pour ainsi dire. Jusqu'à disparaître du langage public lui-même, c'est devenu un inavouable. Mais le phénomène va bien plus profond. Il a affecté, par exemple, ce mécanisme social implicite, mais fondamental, qu'était la relève des générations. La démarche qui consistait pour les générations en place à préparer leur succession sous la forme de la formation des gens qui seraient demain à leur place. Nous sommes dans une société intégralement scolaire, mais qui n'est plus une société de la relève des générations. Pas du tout la même chose. De manière plus générale, cet effacement de l'unité structurante des temps a retiré à l'histoire son caractère, pour ainsi dire, palpable. Il lui a ôté cet aspect de processus unificateur et totalisant qui mettait toute chose en communication dans l'expérience collective comme autant de fragments ou de visages d'un même devenir. Un devenir mettant, qui plus est, le présent en communication avec les profondeurs du passé ou avec les éventualités du futur. D'où le sentiment exprimé naïvement mais véhémentement néanmoins par nombre d'auteurs, que l'histoire n'existe plus. Ou plus exactement, qu'elle n'a jamais existé, qu'elle n'a était qu'un mirage temporaire qui a égaré quelques décennies durant les esprits, avant de se dissiper comme un songe. Nous avons cru à l'histoire, mais il n'y avait rien à croire. Voilà une espèce d'athéisme social que nous entendons s'exprimer de partout et dont le mouvement dit postmoderne a été le héros. Ce qui est sûr, c'est que l'expérience historique a perdu l'espèce d'évidence qui en faisait le repère cardinal de l'existence collective depuis un bon siècle et demi. Il ne nous reste, dans tous les domaines, on pourrait les inventorier, qu'un présent éclaté, sans direction. Une multitude de changements, sans plus rien pour les rassembler, ni pour les relier, que ce soit à un passé identifiable, dans la perspective desquelles on pourrait les situer, ou que ce soit à un avenir probable dont nous pourrions saisir le lien générateur avec le présent où nous évoluons. Parallèlement à cet évanouissement de l'histoire, et en lien avec lui, le politique a perdu le surplomb autoritaire qu'il devait justement à son rôle d'organisateur du changement et à sa fonction d'entraînement vers l'avenir. C'est l'ultime visage qu'avait pu prendre sa vieille primauté ordonnatrice, dictée par sa fonction d'assurer l'unité de la collectivité avec son principe d'ordre supérieur, ce que je résumais dans la formule « commandement d'en haut au nom de plus haut ». Il ne s'agissait plus, en quoi que ce soit, de relayer un fondement religieux, de relier l'ici-bas à l'au-delà. Il ne s'agissait plus que de la tâche strictement séculière d'ouvrir les portes de l'avenir, de guider la projection collective dans l'invisible du futur. Un futur rigoureusement terrestre. Il n'empêche que cela conférait à l'État une position de conducteur prééminent, le mettant en mesure de placer la société sous sa coupe afin de la mettre en relation avec ses destinées futures par l'organisation du changement. Le contenu est totalement différent et même opposé par rapport au passé sacral, mais la forme est demeure structurellement identique. La crise économique qui se déclenche en 1974 dans le sillage du choc pétrolier de la fin de l'année précédente, la crise économique a servi de déclencheur ou de détonateur, comme on voudra, à la mutation qui nous intéresse, en battant en brèche cette puissance d'anticipation de l'État. Elle a radicalement remis en question ses capacités de prévision, d'administration du changement et d'organisation de la collectivité. C'est de là qu'est sorti immédiatement le grand mouvement de libéralisation et de dérégulation dont nous vivons toujours le déploiement. Mais au-delà des problèmes pratiques, des attributions et du rôle concret des États, c'est leur position structurelle de médiateur avec l'invisible de l'avenir qui a été emportée par cette immense vague libérale. Elle a dissous le principe millénaire de la supériorité du pouvoir en vue de l'unité du pouvoir et de la société afin d'unir la société à son fondement supérieur. C'est cette articulation structurelle qui s'est proprement évanouie. En s'effaçant, elle a libéré l'affirmation de la société civile. De façon tout à fait caractéristique, nous avions eu l'occasion dans le passé d'examiner le fait en détail, c'est de ce moment-là que date la consécration de ce terme, de cette notion de société civile dans le langage courant, là où elle était réservée à l'usage savant. Cette affirmation de la société civile en dehors de l'État restait contenue et limitée par la tutelle de l'État. Elle a pris cette fois, et nous en verrons les conséquences, les proportions d'une authentique autonomisation de la société civile. Parallèlement toujours à cet affaissement du surplomb conducteur de l'État, la nation a perdu de son côté sa puissance d'englobement contraignant ou d'appartenance obligée. Elle a vu s'effacer son rayonnement d'instance sacrificielle à laquelle on se doit impérativement, en donnant, le cas échéant, sa vie. La nation a perdu, autrement dit, ce qui maintenait en elle l'immémorial principe d'incorporation holiste. Le principe de l'unité identificatoire des membres et de leur corps politique. Unité obligatoire à l'intérieur de laquelle était venue se loger la définition moderne de la citoyenneté. Qu'est-ce en effet qu'un citoyen ? Celui qui prend à son compte, en conscience, le sort de sa communauté politique de manière à ne faire qu'un moralement avec elle en même temps qu'avec ses concitoyens. C'est cet impératif identificatoire et sacrificiel qui s'est dissipé en lien avec l'autonomisation de la société civile et avec l'individualisation dont elle s'est accompagnée. Il faut y ajouter le trouble qui s'est instauré à la faveur de la conjoncture de mondialisation sur le rôle fonctionnel des nations. Vous connaissez par cœur l'argumentaire. Trop petit pour les grandes tâches qui n'ont de sens qu'à l'échelle du monde, trop grand pour les besoins de proximité dans une société individualisée et décentralisée. Et vous mettez l'ensemble de ces éléments bout à bout et vous arrivez au diagnostic aujourd'hui parfaitement banal du déclin de l'État-nation qui pose le problème de son éventuelle disparition dans la globalisation. En revanche, dans le même temps où se produisait cette double éviction de l'histoire et du politique, nous avons assisté à une spectaculaire ascension du droit. Une ascension portée par la même dissolution de l'unité hétéronome qui a renvoyé l'histoire et le politique dans l'ombre. Le foyer est le même. Les manifestations sont différentes. Sur le terrain du droit, cette dissolution a eu pour effet, à l'opposé de ce que nous avons observé sur le terrain de l'histoire et du politique, elle a eu pour effet de donner corps et de propulser au premier plan cette entité problématique que demeurait jusque-là l'individu de droit, l'homme des droits de l'homme, défini abstraitement par ses droits natifs ou originaires, par son égale liberté d'origine. Le sort de cet individu de droit demeurait dans nos sociétés parfaitement équivoque. D'un côté, il était bien posé, en effet, comme base théorique des systèmes de droit démocratiques, et il jouissait d'ores et déjà de droits pratiques étendus dérivés de cette base, à commencer par le droit de citoyenneté, au-delà des garanties juridiques de sûreté personnelle. Ce droit de citoyenneté dont je viens faire état, qui se traduisait dans le suffrage universel. Mais, de l'autre côté, comme cet exemple de la citoyenneté le fait bien ressortir, cette indépendance abstraite en droit restait limitée par l'incorporation sociale effective. L'individu de droit à l'intérieur et au service du corps politique de la nation. Et par ailleurs, le plus grand scepticisme était de mise généralement à l'égard de la possibilité d'une concrétisation complète de ces fondements en droit qu'on était obligé d'avouer sans trop pouvoir se prononcer sur leur statut exact. Il était admis communément que ces droits individuels constituaient une fiction théorique, indispensable, certes, mais ne pouvant se réaliser pratiquement que dans une certaine mesure et dans certains domaines. Pour le reste, il demeurait de l'ordre d'un idéal régulateur, vague à souhait, vers lequel il convenait de tendre sans trop savoir l'allure que ça pouvait prendre, ni la plausibilité de l'advenu. D'où l'embarras remarquable chez les juristes de l'époque vis-à-vis de cette source à laquelle ils étaient obligés de faire référence le plus rapidement possible, tout en donnant leur préférence au droit positif, le droit traitant des rapports sociaux effectifs, c'est-à-dire prenant les individus comme toujours déjà liés à leur pareil dans le cadre d'une société imposant concrètement ses règles. L'essence du droit était au moins tacitement logée dans cette imposition de normes collectives aux individus. On était là aux antipodes du supposé contrat social fondé sur l'indépendance primordiale des individus. D'où aussi bien l'intérêt pour le modèle qu'offraient les droits sociaux, j'y faisais allusion tout à l'heure. On le comprend de ce point de vue, on avait là des droits réels, sous forme de prestations concrètes fournies par la collectivité afin de conforter le droit formel des individus. L'individu abstrait, soit, mais saisi là, dans sa société, dans son insertion collective concrète. L'évanouissement de l'unité hétéronome, sous l'aspect ici de l'effacement de l'incorporation holiste, a révolutionné le visage du droit et a transformé du tout au tout sa place dans la vie collective. Nous n'en sommes encore sur ce terrain qu'au début, probablement, des conséquences de ce phénomène. Cette dissolution de l'incorporation est allée du haut en bas de la vie sociale. Je viens de la pointer en haut, au niveau de la nation, mais elle est descendue jusque dans les unités sociales élémentaires, jusque dans cette fameuse cellule de base qui était supposée constituer la famille, qui a cessé justement d'être une cellule de base, si tant est qu'on pouvait la tenir véritablement pour telle. Elle a cessé d'être une institution dans la plénitude du terme, pour devenir une libre association de personnes. Ce qui ne la fait pas échapper au droit, mais lui ôte à coup sûr la place. Que le courant conservateur en particulier voulait, et veut toujours, on va lui assigner. D'un côté, donc, il y a eu retrait de ce qui subsistait de la primauté des encadrements sociaux, à l'intérieur desquels, de la famille à la nation, en passant par la classe, le groupe professionnel et tout ce que vous voulez, avait à s'inscrire l'individu. De l'autre côté, une série de facteurs d'ordre divers ont achevé de faire de cette entité abstraite, voire purement théorique, que postulait le droit, un individu de droit concret. C'est là que réside le fond de la vague d'individualisation qui déferle depuis le tournant des années 1970. Elle est ultimement un phénomène de racine juridique. Le droit, nous aurons à y revenir, est le ressort central de la formule complètement dégagée de la société des individus. La société où il n'y a en droit que des individus. Les choses ne se sont, bien entendu, ne pouvaient pas s'arrêter là. Il y a eu prise de pouvoir par les fondements en droit. De marginal qu'était leur rôle, il est devenu central. Ils sont entrés dans le droit positif. Sous le nom, précisément, de droits fondamentaux. Ils ont quitté le ciel théorique du droit naturel pour passer dans les systèmes juridiques effectifs. Ces droits fondamentaux sont posés comme premiers par rapport aux droits positifs, mais ils sont aussi positifs, régissant les rapports sociaux. Des rapports sociaux qui ont à s'aligner sur eux. Cette fondamentalisation du droit a transformé insensiblement l'esprit et le fonctionnement de la démocratie libérale, devenue une démocratie des droits de l'homme, coiffée par un état de droit. L'état de droit est désormais la pierre de touche de la qualité démocratique d'un régime. Il n'est pas jusqu'au système des pouvoirs qui n'en ait été affecté. Nous avons vu comment, j'en parlais dans une séance récente, comment la stabilisation des démocraties dans l'après-1945 s'était traduite par l'ascension du pouvoir exécutif aux dépens du pouvoir législatif, traditionnellement admis comme le pouvoir prééminent dans les régimes représentatifs. Eh bien, la transformation de la démocratie par le recentrage sur leur fondement en droit s'est soldée par l'ascension du pouvoir judiciaire et la promotion plus généralement d'un modèle judiciaire du pouvoir et de ses opérations. Il faut mentionner un dernier trait, celui que nous avons commencé à explorer l'année passée au titre de la psychologie de cet individu de droit, car il a une psychologie, et une psychologie qu'il faut référer à ce foyer structurel de nouveau qu'est la dissociation de l'individuel et du collectif. La dissolution de l'identification de l'individuel au collectif qui était un rouage essentiel de la structuration hétéronome. De là, c'est cette déliaison de l'individuel et du collectif, déliaison identificatoire, qui donne toute sa portée à la notion de privatisation des individus. L'individu de droit concret est un individu privé, ce qui emporte toute une série de conséquences sur lesquelles nous aurons à revenir du point de vue de son naître en société. Voilà le bilan, donc, sommairement tracé de la mutation consécutive au tournant des années 1970, marquée par le retrait de la forme que l'unité hétéronome continuer de communiquer à l'expérience collective. Marginalisation, voire disparition du politique et de l'histoire. Centralité, voire exclusivisme du droit. Exclusivisme puisqu'il définit à la fois le statut des êtres, la forme, la trame concrète des rapports sociaux à la base, sous le signe de l'individualisation, et la norme suprême de la vie collective mise en œuvre par l'état de droit. C'est ainsi que se dessine la nouvelle configuration structurelle de la modernité résultant de la décantation complète de la structuration autonome et de la liquidation, pour de bon, de la structuration hétéronome. Même si l'on peut se demander, et nous aurons à en parler, s'il ne subsiste pas néanmoins un résidu ou des tenants-lieux de cette structuration hétéronome. On devine tout de suite. Dès cette première description destinée à faire ressortir l'ampleur de la transformation qui se produit, une métamorphose du paysage global dans lequel s'insère la vie collective, on devine en quoi elle est une configuration de crise. Tout irait bien. En somme, si le droit restait effectivement tout seul dans la lice et suffisait réellement à définir l'existence collective en la disparition du politique et de l'histoire. C'est l'expérience, d'une certaine manière, que nous sommes en train de vivre. Le droit suffit-il à définir le cadre d'une vie collective? Malheureusement, à ce qu'il semble, ce n'est pas le cas. En dépit des apparences qui font qu'on ne discerne plus, en effet, la place prééminente que l'histoire et le politique occupaient dans la vie collective. Ils ont beau ne plus être massivement opérants en apparence, ils sont bien là, et en fait, ils sont plus que jamais là. De telle sorte que la situation réelle dans laquelle nous nous trouvons est que le droit laisse échapper des pans entiers de l'existence collective, qui fonctionne en échappant à toute conduite consciente de la part des acteurs. Et davantage, le droit empêche activement de rendre compte et de se saisir de ces dimensions de la vie collective qui continue néanmoins d'être opérante. Aussi, pour pleinement comprendre cette configuration de crise, il faut approfondir la description. Quid réellement du politique et de l'histoire au-delà de cette disparition apparente qui n'en est manifestement pas une? Nous verrons qu'en réalité, au-delà de ces apparences qui nous égarent, c'est à une triple consécration structurelle du politique, de l'histoire et du droit que nous avons à faire. Une consécration, simplement, qui repose à nouveau frais et en de nouveaux termes le problème de leur articulation, le problème de notre régime mixte. Il nous faudra donc réinterroger ces trois éléments, le politique, l'histoire et le droit, dans leur effectivité présente, qui conduit, dès qu'on creuse un peu l'analyse, à une appréciation assez différente de la situation qui se présente apparemment à nos yeux en tant qu'acteurs sociaux. Voilà notre programme de l'année prochaine. Donc.
Dans cette disparition qui va être sur la politique, ces changements, bien sûr, vous avez évoqué un effet déclencheur de la crise de 1962, les difficultés de l'État-nation, etc., l'État jacobin. Est-ce que vous accordez une importance, une certaine importance, une grande importance à l'effet, disons, l'américanisation, par exemple, de la société française, sur, par exemple, l'imaginaire, sur la vision de l'histoire, sur un certain nombre de phénomènes? Est-ce qu'il n'y a pas dans cette éradication, ou apparente éradication, de certains de ces éléments traditionnels, d'histoire et politique, est-ce qu'il n'y a pas, dans la société européenne et dans la société française, à certains égards, un effet de colonisation culturelle et d'effet de la civilisation dominante relié par ce qu'on sait tous les moyens d'information de masse qui deviennent très puissants ces années-là?
Écoutez, la situation me semble beaucoup plus compliquée, pour la première raison que le mouvement que je décris d'affaissement de l'autorité conductrice du politique, il est parti des États-Unis. C'est là qu'il a pris ses premiers aspects avec la critique radicale menée par ce que nous appelons en Europe des libéraux, mais c'est le contraire, de tout le dispositif étatique, très loin de l'État social et de l'État régulateur à l'européenne, mais très réellement existant, que le New Deal de Roosevelt avait mis en place. C'est des États-Unis que la critique de l'efficacité économique des États, de leur capacité de prévision, des effets pervers de la régulation, est partie. En effet, elle est venue en Europe plus tard, un peu plus tard, mais donc c'est un mouvement général. Simplement, je crois qu'il faut distinguer tout simplement la situation européenne de la situation américaine, parce que l'État y a des racines et une place en général, quelles que soient les modalités différentes des expériences nationales, d'une profondeur qu'on ne trouve évidemment pas dans le cas américain. Mais néanmoins, c'est un mouvement beaucoup plus large qui s'est produit là. Donc, Nous ne nous sommes pas alignés sur un modèle américain qui serait resté intangible. C'est le modèle américain, lui, qui a bougé le premier. Et nous avons été pris dans le mouvement. Et ensuite, de quoi, même s'il y a des éléments de vérité dans ce que vous dites, je le crois en effet, il y a des choses comme ça. Justement, le grand basculement créé par l'effacement de l'histoire a été un basculement du centre de gravité idéologique de l'Europe, où continuait de se jouer, ne serait-ce que sous la forme de l'affrontement idéologique communisme-démocratie, le sort de l'humanité telle qu'on pouvait le penser, vers les États-Unis comme la forme de la société la plus moderne. C'est à ce moment-là que ça s'est fait, en fonction de l'effacement de cette dimension originale de l'expérience européenne, qui était l'insistance sur l'histoire. Donc, influence, mais influence, d'abord, plus échappant au manichéisme d'un modèle intangible au profit d'un modèle qui bouge, et influence qui prend sens, non pas par un phénomène de colonisation, mais par un phénomène d'appropriation. C'est-à-dire, les conditions internes des sociétés européennes, de la société française comme les autres, hein, la première société européenne qui bouge significativement, c'est la société anglaise, avec les réforme thatchérienne, mais toutes les autres vont suivre. Hein, c'est un mouvement général qui a d'ailleurs des conséquences planétaires. Hein, voilà. En 1978, Deng Xiaoping, qu'on ne peut pas soupçonner de libéralisme échevelé, comprend qu'il faut peut-être essayer de voir s'il n'y a pas une autre manière de s'y prendre, parce que ça ne marche pas très bien. Bon, voilà le genre de phénomène qu'il faut prendre en compte et qui donne la mesure de l'événement. Si, en effet, une influence américaine marquée a pénétré les sociétés européennes, y compris la société française, a priori l'une des plus réfractaires par son histoire, c'est parce que les conditions internes de ces sociétés avaient changé. C'est pas une entreprise impérialiste de colonisation forcenée par l'extérieur. C'est une entreprise d'appropriation de modèles extérieurs en fonction du fait que le modèle intérieur sur lequel on vivait s'effondre. Il ne marche plus. On ne sait plus à quel sein se vouer. Donc on va chercher ailleurs. C'est plutôt comme ça que ça me paraît s'être passé pour le principal.
Oui, votre conclusion arrive au constat d'une non-cohérence entre l'organisation des pouvoirs et la structuration de la société. Est-ce qu'on arrive alors automatiquement à un argument fort du changement de constitution ?
Je ne pense pas que les choses se passent tout à fait de cette façon. C'est-à-dire, je tendrais à ne pas accorder aux constitutions cette espèce de place que vous leur donnez implicitement d'être une traduction directe, adéquate, du fonctionnement d'une structure sociale dans un système de pouvoir. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, par exemple parce qu'il y a une dimension culturelle des constitutions qui est dictée par l'empreinte d'une histoire. Je ne crois pas qu'on puisse comprendre des systèmes d'institutions françaises sans la prégnance de l'héritage à la fois monarchique, révolutionnaire et républicain. Il y a une espèce de synthèse pas claire du tout d'ailleurs, pas forcément très fonctionnelle, mais qui est faite pour inscrire aussi une constitution, inscrit une société politique dans une histoire. C'est aussi ça une constitution. Je ne crois pas qu'elle ait jamais la vocation, et c'est encore d'autres choses, mais je crois qu'elle n'a jamais la vocation directe de s'adapter à une structure sociale profonde. Hein. On ne parle pas de la description qu'on peut faire des groupes sociaux. Mais c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Ce serait peut-être une constitution idéale, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans les faits. Et je pense que ça peut difficilement se passer comme ça. Donc, une des empreintes de l'histoire française, c'est le goût de faire des constitutions. Ça, c'est sûr. Nous sommes des recordman du monde dans le genre, c'est connu. C'est un de nos derniers records du monde. On peut creuser l'écart en faisant une nouvelle de constitution. Les autres auront encore beaucoup plus de mal à nous rattraper après. Mais je ne suis pas sûr que ça soit, dans le cas précis, la réponse à la situation présente, même s'il y a tout lieu de se poser de sérieuses questions sur la manière dont fonctionnent nos institutions. Mais vous savez, à ce propos, le fonctionnement des institutions, il n'est pas simplement fait par les textes, il est fait par l'esprit que leur communiquent les acteurs. Et c'est peut-être aussi de ce côté, c'est plus sûrement de ce côté que les évolutions souhaitables se produisent. Parce que vous pouvez imaginer les meilleures institutions sur le papier, elles seront toujours mises en œuvre par des acteurs, dans ce domaine-là en particulier du pouvoir, qui en feront un usage, qui en déterminera l'esprit effectif. Et c'est là que ça se passe. Ce qui est en effet clair, dans le cas français, puisque c'est à lui que vous pensez, mais le problème est beaucoup plus large. Ce qui est clair dans le cas français, c'est que le fonctionnement des institutions est déphasé, pas seulement par rapport à la structure de la société, mais par rapport à des attentes beaucoup plus immédiates, dont on peut creuser la nature, qu'un changement de constitution ne réglerait pas forcément.
Différenciez bien les droits de l'homme des droits sociaux. Est-ce que vous pensez que, de ce fait même, l'existence de ces droits fondamentaux, des droits de l'homme, là, vont conduire ou conduisent à détruire cette notion de droit social en affaiblissant justement cette citoyenneté sociale qui avait été à un moment donné un des piliers de leur, du fait qu'ils soutenaient, comme vous dites très bien, les droits positifs. Est-ce que j'ai bien compris votre démonstration ?
Alors, entendons-nous bien sur les droits sociaux à distinguer des droits fondamentaux. Ils ont un rapport. Sans droits fondamentaux, les droits sociaux n'ont pas de sens. Les droits sociaux sont destinés à conforter les droits formels définis par les droits de l'homme dans leur exercice social réel. Bon, donc, il ne s'agit pas de les opposer, ce serait absurde. Hein, donc. Mais ce qui est vrai, en revanche, et là nous rejoignons tout à fait, et c'est un des points que nous aurons à voir, c'est qu'une certaine manière de comprendre ces droits fondamentaux conduit en effet à une remise en question de certains de ces droits sociaux. C'est une chose. Le lien fait qu'on n'est pas très conscient de cet aspect négatif du lien et conduit dans tous les cas à une lecture profondément différente du fonctionnement des États sociaux tels qu'ils ont été mis en place en Europe après 1945 pour l'essentiel. Oui, ça, il y a un changement majeur. En gros, les droits sociaux se sont construits pour remédier aux défauts flagrants des droits formels, ou des droits qu'on n'appelait pas fondamentaux à l'époque, pour leur réalité. C'est à quoi ça sert de donner le droit de vote aux gens s'ils ne savent pas lire, pour prendre l'exemple le plus élémentaire. Et aussi, ils ne sont pas dans les conditions de pouvoir apprendre à lire. Donc, les droits sociaux paraissaient la forme trouvée de la réalisation des droits formels. C'est comme ça qu'ils se sont installés dans le cadre européen. Aujourd'hui, l'accent nouveau mis sur la logique pure des droits fondamentaux conduit à une révision complète de cette traduction des droits fondamentaux en droits sociaux qui avait été mise en place. Donc c'est un des problèmes, un des troubles profonds de nos sociétés politiques européennes, là, assez spécifiquement européennes.
Ma question porte sur l'histoire. Comment expliquez-vous que d'un côté nous ayons cet évanouissement de l'histoire que vous nous avez décrit, cette impossibilité désormais de lier présent, passé, avenir, et d'un autre côté la place croissante, me semble-t-il, dans la société que prend l'histoire, puisqu'il y a une multiplicité de revues historiques, un intérêt certain pour le public, pour l'histoire, la place de l'historien qui est appelé dans les médias, parfois conseiller du prince. Comment expliquez-vous cette contradiction entre évanouissement de l'histoire et toute puissance de l'histoire nouvelle dans la société, ce qui n'était pas le cas dans les années 50 et 60, et le dernier livre de Marc Bloch, il devait défendre l'idée qu'être historien, c'était un métier. Personne aujourd'hui ne le contesterait.
Personne ne le contesterait, mais il n'empêche que les livres d'histoire le plus lus sont écrits par des historiens non professionnels. Bon c'est, vous voyez, nuançons le constat. Mais bon, ce n'est pas le point principal. Alors, il faut bien s'entendre, et je vais y revenir soigneusement parce que c'est un des points capitaux de ce que j'essaie de montrer. Sur ce terme d'histoire, je suis obligé là de l'employer rapidement sans le définir suffisamment, sans marquer toutes les acceptions qu'il est susceptible de revêtir. Le contraste et le paradoxe apparent que vous pointez repose en fait sur un changement de sens du terme dans les deux volets. On n'est pas sur le même plan. L'histoire dont je parle, c'est la conscience collective associée à l'action de tous les jours en vue de l'avenir. C'est ça, cette histoire-là dont je parle. Ce dont vous me parlez sous la toute-puissance de l'histoire, c'est de la science historique, pour faire court, du discours historique, c'est-à-dire de la connaissance du passé. C'est pas pareil, parce que justement, c'est le point que j'essaye de mettre en lumière. Cette science historique, elle n'est qu'un dérivé, elle n'est pas première, d'un dispositif bien plus large dont l'orientation principale n'est pas dirigée vers le passé, mais vers la production du futur. Si nous sommes devenus historiens de métier, et pas simplement amateur, antiquaire amateur, comme il en existait depuis très longtemps. C'est précisément parce que nos sociétés sont pratiquement orientées vers la production du futur. L'histoire, au sens du discours philosophique sur l'histoire, les philosophies d'histoire, si vous voulez, ou celui que je pratique, c'est l'éclaircissement des conditions de la marche vers l'avenir. Ce n'est pas la connaissance du passé qui n'est qu'une science auxiliaire, si j'ose dire, pour employer un terme qu'aiment bien les historiens, dans ce dispositif. Il faut le prendre dans sa globalité. L'histoire, c'est, tel que je la propose de la définir, c'est le système de représentation des rapports entre passé, présent et futur, compte tenu de la marche des sociétés vers un avenir à définir. C'est ça. Donc, juste une remarque supplémentaire au-delà de cette distinction. Ce que vous voyez comme toute puissance de l'histoire, moi je le vois plutôt comme un abaissement de l'histoire. Je veux dire par là que l'histoire, la connaissance du passé avait pour finalité, depuis qu'elle est née, hein, dans l'histoire science moderne, c'est les années 1820 en Europe, en Angleterre, en Allemagne, en France. C'est ça qu'on appelle la science historique. Avant, c'est autre chose. Cette histoire avait pour finalité, cette science historique avait pour finalité de fournir un étayage à l'action des sociétés en vue de l'avenir. C'est ça qui lui donnait sa raison d'être, et c'est ça qui faisait que les historiens pouvaient jouir d'un tel magistère. Parce qu'évidemment, creuser le sens du passé, c'était ouvrir la porte de l'avenir, et donc c'était une science indispensable à tous les ceux qui, en particulier les hommes politiques, prétendaient dire quelques mots que ce soit sur le gouvernement collectif. L'histoire dont vous parlez, c'est un hobby individuel. Et collectivement, c'est un sous-produit de l'industrie commémorative, qui est devenue, en effet, une des choses qu'il faut comprendre dans nos sociétés. Quand vous parlez de l'historien conseiller du prince, je peux vous dire pratiquement ce que ça signifie. C'est chargé d'écrire le discours du prince pour la commémoration de ceci, de cela, d'autre chose. Ah, c'est ça la question. Mais l'historien ne vient pas auprès du prince pour lui dire, compte tenu de ce qu'a été le passé, voilà ce que vous devez faire. Et c'est le rôle qu'il a pu exercer. Plus ou moins imaginairement, en pratique, ça ne se passait pas tout à fait comme ça. Mais c'était la vocation de l'historien que d'être celui qui, en tant que truchement avec le sens du passé, met les collectivités en mesure de mieux se projeter dans l'avenir qu'elles sont en train de fabriquer. Et ce rôle-là, il l'a totalement perdu.
C'était Michelet,
en sorte. Michelet, mais prenons encore tout récemment un exemple qui parle dans cette maison, l'histoire de l'époque annale. C'est dans ses différentes étapes, puisqu'elle a connu plusieurs visages, en fait, ce n'est pas du tout un paradigme unifié, mais un parcours. La grande époque initiale des annales, c'est l'histoire sociale, démographique, les prix, les loyers. On est bien loin de tout ça. Hein. Mais ça rentrait entièrement dans le paradigme marxiste. Si vous connaissez les forces sociales à l'œuvre dans la marche du devenir, eh bien évidemment, vous êtes branché sur le mouvement social en train de se produire. Et d'ailleurs, il y avait souvent des liens étroits entre les. Et des liens quelquefois étranges. J'ai eu l'occasion de faire remarquer à Fernand Braudel que son livre « Civilisation matérielle et capitalisme » était rempli de formules marxistes. Ce n'était pas précisément sa tasse de thé en principe. Il était indigné, mais obligé de constater qu'en effet, ça lui avait échappé. Vous prenez l'histoire des mentalités. C'est très intéressant. C'est un cas extraordinaire du point de vue du changement du paradigme. Donc ça va évoluer. Le paradigme anal, les mentalités, les sensibilités, peu importe, les dénominations. Ça, le grand moment où ça touche le public, c'est les années 70. C'est en plein les années de mon tournant. Et c'est quoi? C'est le monde que nous avons perdu, que nous sommes en train de perdre. C'est des paysans de Languedoc, de Montaillou, tous ces livres qui ont fait époque. L'anthropologie historique, c'est-à-dire la distanciation du Moyen-Âge, avec lequel, au contraire, le récit progressiste faisait continuité, c'est au service de la mesure de la distance en train de se creuser entre le passé et nous. Mais la mesure de cette distance, elle est intéressante pour comprendre la mesure de la différence qui nous sépare de l'avenir en train de naître. Et ça a été un feu de paille. Ça a duré quelques années. Ça épouse exactement la chronologie du tournant que je décris. Début des années 80, c'est fini. Ça a duré une décennie. Ça continue, parce que la profession historique continue de travailler, mais ça n'a absolument plus le même écho public. Et moi, ce qui me frappe dans l'histoire populaire, enfin aujourd'hui, c'est justement son annexion par la mentalité commémorative. Hein, beaucoup. D'ailleurs, vous lisez les sommaires des revues d'histoire un peu populaire, il est totalement dicté par le calendrier commémoratif. Il ne s'agit pas de faire état de recherches qui mettraient en lumière des aspects. Non, c'est qu'est-ce qui s'est passé en fait au moment de tel et tel événement dont nous vivons le trentenaire, le cinquantenaire, le centenaire, le bicentenaire. Vraiment, c'est ça. Donc pour moi, il y a au contraire une perte d'autorité flagrante du discours historien dans nos sociétés et, qui plus est, un vrai problème de l'enseignement de l'histoire que, apparemment, les praticiens connaissent de près au niveau élémentaire parce qu'elle ne fait plus sens du point de vue de l'orientation collective. Elle est un goût. En effet, un des goûts fondamentaux de l'humanité, mais ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis très très longtemps, c'est le goût du passé. Pour mille raisons. Intéressantes à creuser, d'ailleurs.
Oui, ça rejoint exactement la question que je voulais vous poser. Moi, c'est toujours des questions d'éducation qui me préoccupent. Donc, en fait, je voulais savoir dans quelle mesure on peut concevoir une refondation de l'école du niveau profond sans prendre en considération cette nouvelle configuration par rapport à l'histoire, par rapport à les enfants, ils n'en ont rien à tirer de cette configuration, ils vacillent à l'air. Ils ont raison.
Le pire est qu'ils ont raison. Ça ne facilite pas la tâche.
Mais même dans toutes les matières, dans quelle mesure on peut imaginer une refondation de l'école par des gens qui ne se pose pas la question justement de cette modification du rapport à la transmission.
C'est pas moi qui dirais le contraire. Mais malheureusement, ça ne me donne pas le pouvoir d'influer significativement sur la démarche des réformateurs en question, et dont on peut prédire sans beaucoup se tromper que ça sera un coup d'épée dans l'eau de plus. Ben oui. Donc, toute la question, c'est à quel moment on en viendra à s'apercevoir qu'il faut se poser des problèmes un peu autrement. Non seulement, d'ailleurs, s'agissant très précisément de l'enseignement de l'histoire, on ne prend pas en compte cette dimension, ce changement énorme dans le rapport au passé, mais on en arrive à des formules perverses. Ces programmes sont évidemment élaborés par des historiens qui ont eux-mêmes été formés dans un cadre intellectuel antérieur où l'évidence du magistère historique s'imposait à tout le monde. Leur but est de le sauver, ce magistère. En fait, c'est un but inconscient, hein. Vient de paraître un livre fort intéressant sur cette question de Dominique Borne, l'histoire telle qu'il faut l'enseigner, je ne me rappelle plus du titre exact. C'est typiquement un livre dicté par les meilleures intentions, mais inconsciemment conduit par l'idée, la question sous-jacente, à quelles conditions l'enseignement de l'histoire peut-il aujourd'hui avoir le relief civique qu'il possédait dans un autre contexte. Et du coup, je parlais d'une formule perverse, parce que le résultat, c'est, quand on prend le problème de cette façon, à quoi aboutit-on ? On aboutit à une version catéchétique de l'histoire. Parce que le magistère en question, c'est un magistère moral. Il s'est passé des trucs épouvantables dans l'histoire, et en particulier récente, des abominations sans nom. Et c'est contre ces abominations que l'historien a vocation à mettre en garde les nouvelles générations. Donc on leur dit, mes enfants, vous êtes des criminels en puissance, hein, au cas où vous ne le sauriez pas, on va vous le rappeler sévère. Et prenez-en de la graine, hein. Il ne s'agit pas que vous vous conduisiez de cette façon. comment voulez-vous qu'un message de ce genre provoque autre chose qu'une stupeur complète, hein, je disais, ils sont ma boule, ces profs. Pourquoi on assassinerait des gens, nous ? Je veux dire, c'est pas, et ça a tellement peu de sens, en plus, dans le contexte où nous vivons. Je veux dire, c'est l'obscurcissement du passé au service du sauvetage du magistère historique. C'est en ce sens-là que je parlais d'une perversion, vraiment, qui aboutit à un discrédit supplémentaire. Parce que tout le monde s'en fout, la vérité. C'est ça. On ne peut pas le dire. Ils comprennent très vite qu'on ne peut pas le dire, mais ils n'en pensent pas moins.
Par rapport à cette question de l'évaporation des histoires, par exemple, moi j'ai l'impression qu'elle devient très visible quand on prend en compte le fait que l'histoire qui a du succès aujourd'hui, c'est souvent des histoires écrites par des littéraires, écrites à la première personne, qui est une histoire, pour utiliser un terme, immersif, c'est-à-dire on oblige le lecteur à s'identifier, prenons le cas des bienveillants, qui est très récurrent, mais aussi d'autres productions historiques, et qui amènent à une identification du lecteur, une identification totalement acritique, où la dimension justement temporelle, de distance, de l'histoire disparaît. Une utilisation très vaste de l'histoire, par exemple, ce qu'on pourrait appeler numériquement de l'histoire dans les jeux vidéo. Dernière analyse, la dernière version de Assassin's Creed sur la révolution française, qui a même appelé Mélenchon à protester contre la mort de Robespierre. Mais donc, il y a d'un côté une histoire qui ressort, qui apparaît, mais elle apparaît, moi, il me semble, tout d'abord pour détruire tout esprit critique, toute posture critique de l'individu, qui était quand même l'aspect l'un des plus positifs de l'historiographie telle qu'on l'a connue.
Tout à fait d'accord. Parce que précisément, l'histoire était une vraie discipline. On ne peut pas dire n'importe quoi. La chose du monde qu'on peut le plus reprocher à la commémoration générale, hein, dans sa, non pas dans ce que font les historiens à l'occasion de la commémoration, qui continuent d'obéir à des règles tout à fait professionnelles, mais c'est la signification symbolique que la commémoration a dans la vie sociale. La commémoration, c'est une appropriation du passé pour en faire ce qu'on veut. Et c'est d'ailleurs, il y a un usage politique de la commémoration qui ne date pas d'hier, hein, c'est pas, mais qui a pris une extension extraordinaire. Le passé, c'est une mine où on peut puiser des arguments ad hoc pour le présent. Donc c'est le contraire de ce qu'était l'histoire critique, comme discipline impartiale à l'égard dont le premier mouvement était précisément de critiquer les appropriations qu'en faisaient les acteurs. Et la commémoration dit aux acteurs sociaux dans notre société, vous avez le droit de faire du passé ce que vous voulez. Et en fait, le passé est revenu comme le domaine de l'imaginaire. Et la chose extraordinaire est que même sous le nom d'un genre littéraire qui connaît une fortune extraordinaire auprès des adolescents, mais au lieu des adolescents prolongés que sont souvent les adultes, qui n'a pas de nom en français, mais qui est un phénomène planétaire, qu'on appelle la fantaisie, qu'en général on ne lit pas beaucoup chez les adultes cultivés, mais on a tort, parce que c'est là que ça se passe. C'est la réinvention des romans de chevalerie, ni plus ni moins. On a connu ça au XVIe siècle, c'est la même chose. C'est une utilisation, parfois très bien faite d'ailleurs, du point de vue de la technique du récit, tout ça, ça peut être très remarquable, une utilisation du passé comme imagination du présent et du futur. C'est totalement projectif. Après tout, celui qui a donné ses premières lettres de noblesse au genre, mais dans un relatif silence au départ, et avec aujourd'hui, c'est Tolkien. On y est en plein. Le passé est redevenu non plus le domaine de ce qu'il faut connaître scientifiquement, critiquement, pour ne pas dire n'importe quoi sur ce qui se passe aujourd'hui et ce qui peut se passer demain, pour devenir au contraire un domaine libre de l'imagination et de la projection. C'est ça qui est le problème. Et malheureusement, la fantaisie a plus d'adeptes dans les jeunes générations que les cours d'histoire. Hein, faut bien se le dire.
Pour revenir toujours à l'histoire, que faites-vous de cette volonté de maîtriser le climat, de la notion de développement durable pour préserver l'avenir de l'humanité dans un travail qui a un but?
Écoutez, il y a un but. Le but, c'est la survie. C'est un but minimal. Tâchons de ne pas crever sous l'effet de nos âneries. Je résume grossièrement le projet, mais il ne me paraît pas un grand projet historique. Parce qu'à l'intérieur de cette survie, c'est comme, vous savez, les grands vieillards... en état de perte générale de leurs facultés, ils survivent. Si c'est la survie durable dans un état lamentable, quel est l'intérêt? On est vraiment dans une version. Vous avez, il y a toujours un minimum de projection, puisque nous travaillons à le fabriquer. Là, c'est le degré zéro, si je puis dire, de la projection dans le futur. Il faut qu'au moins que le futur nous permette de survivre à peu près dans des conditions humaines vaguement décentes. C'est pas un projet très mobilisateur, en fait.
Le lien avec la
transmission, je le crois. Parce que c'est plus un principe social constitué. Il existe à l'échelle des individus, mais il n'a plus de... Il n'est plus un rouage de la vie sociale. C'est ça,